Interview.
2 jours.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Caroline de la Carline.
Salut.
Ça rime.
C'est ça.
Ça va ?
Ouais, ça va bien.
On va parler de plein de choses sur cette Carline puisqu'il y a plein de choses nouvelles qui arrivent qu'on avait un peu évoquées dans une précédente émission, mais ça, c'était avant un certain confinement.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà.
Et puis, il y a eu cette fête des 30 ans.
Oui.
Tiens, bah, fais-nous un petit bilan sur cette fête des 30 ans. Vous êtes
satisfait ?
Il y avait du monde
Ouais, on a bien fait la fête.
Non.
C'était chouette, on a bien fêté. Et bah, c'était au Théâtre de Die. On a eu à la fois un petit spectacle de clown qui faisait voilà, un spectacle vivant pour rappeler un peu l'histoire de la Carline, des débuts jusqu'à aujourd'hui, les différents paliers de développement. Donc ça, c'était... C'était réalisé par Samuel Reynaud et Blandine Desvignes. Donc c'était un super chouette conte et qui sera rejoué à la prochaine AG de la Carline là, le 26 septembre à Romeyé. On a eu une table ronde avec des producteurs du Diwa, de la Drôme et du Trièves sur les différents circuits d'approvisionnement, mmh. les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans la production et la commercialisation. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'était animé par Lise Barnéou. On aurait bien aimé pousser la discussion encore 2 heures parce que c'était vraiment intéressant.
Et, ouais, ça s'arrêtait pas. Ouais.
Et qu'il commençait à y avoir un peu de répondants dans la salle et on devait arrêter. Donc ça, c'était assez frustrant.
À réécouter sur RDWA, d'ailleurs.
Ouais.
Elle est toujours disponible.
Exactement. Et puis, voilà, il y avait une exposition aussi photo qui avait été réalisée par Vincent Astier. Il y avait quelques portraits de personnes qui sont beaucoup investies dans la Carline, donc ça c'était chouette de se le rappeler. Et en fait, ces 30 ans, pourquoi on les a fêtés ? Bah, déjà parce que c'est un moment convivial, que ça permet de créer du lien, aux gens de venir discuter autour d'un verre. Donc il y avait des moments un peu magiques avec producteurs qui venaient du Trièves, qui s'est retrouvé à discuter avec ses clients, à aborder des sujets voilà, qu'on ne fait pas en magasin parce qu'il n'a pas le temps, il pose ses patates et puis vite, il discute un peu avec nous, il file. Donc ça, c'était vraiment des moments précieux. Et puis, bah, c'était aussi surtout parce que bah, voilà, la Carline, ça grandit, ça bouge et c'est important en fait, pour la transmission un peu de l'esprit dans lequel s'est construit la Carline, bah, d'avoir des fois des rappels sur bah, qui a déjà participé à construire ce projet, quelles ont été les étapes, les questionnements. Voilà, donc voilà. Moi, je tenais un peu à faire un retour sur cette histoire pour que les nouvelles générations de bénévoles, d'administrateurs, administratrices et de salariés puissent un peu se rappeler bah, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait un peu.
Est-ce que ça partait d'ailleurs d'un constat aussi de décalage avec bah, une nouvelle génération de, peut-être déjà de consommateurs, effectivement. Le fait que vous soyez un magasin et qu'on soit plus, j'allais dire, un peu obligé d'être adhérent au moins ouais. À une idée. Est-ce que ça paraissait important du coup pour vous de venir redire « Non mais attendez, la Carline c'est ça
ouais. »
et « Ne nous trompons pas » Et voilà. Bah, est-ce que ça devenait urgent ? Je ne sais pas. Fin...
Urgent, je ne pense pas, mais ça devenait nécessaire. Parce qu'en effet, 30 ans d'une organisation, il peut y avoir vraiment un basculement où les gens se disent, bah, déjà perdent un peu de l'intérêt en disant « Ah, ce n'est plus l'endroit un peu confidentiel comme avant, il n'y a plus vraiment besoin de s'investir. » Donc déjà, il peut y avoir des gens qui s'investissent moins parce qu'ils se disent « Oh, il n'y a plus trop d'intérêt. »
Il y a des salariés, ça tourne.
Voilà, il y a des salariés, ça tourne, il n'y a plus besoin de nous. Et bah, en fait, au contraire, c'est justement ça tourne, tout le côté opérationnel du magasin, ça tourne, on n'a plus besoin de vous, mais on a besoin de vous pour tout le reste, en fait, pour le projet politique qui est derrière. Et en fait, il ne faut pas l'abandonner, il faut vraiment s'en saisir. Donc il y avait un côté, faut rappeler un peu les fondements et l'esprit pour bien que les gens du territoire se souviennent en fait de bah, qu'est-ce que c'est la Carline. Parce que la tentation, elle serait grande de venir juste consommer en fait.
Et
parce
oui.
que maintenant, on s'est vraiment mis au point sur comment l'épicerie fonctionne et on arrive à être bien organisé et bien efficace. et ben maintenant il faut continuer de passer aux choses sérieuses en fait et se dire bah tout l'intérêt de la Carline c'est quand même qu'il y a une grosse arme politique derrière qui est et ben c'est pas lucratif. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez dans la Carline et ben vous allez la plus grosse partie qui part dans bah ça paye les charges, ça paye les salariés, ça paye les fournitures etc. Et puis après il reste un Pékin, il reste quelque chose en fait que vous pouvez utiliser pour vraiment servir le projet à la base de la Carline qui est aussi bah de permettre un peu une transition du territoire quoi, de favoriser l'agriculture bio, la production locale et tout ça. Donc il faut pas l'oublier en fait, faut plutôt le rappeler, le rabâcher pour que justement bah les gens ils voient un peu la différence et ils fassent peut-être aussi pas que acheter, pas que consommer et que ce soit pas seulement on vient consommer des valeurs mais on peut s'investir autrement et les manières de s'investir elles sont vraiment très diverses et adaptées à tout le monde au niveau du temps, de l'énergie, de l'espace mental disponible. Ça peut être juste lire une newsletter qu'on envoie tous les mois où on parle de rencontres avec des producteurs, on parle de certains produits, de fonctionnement de la Carline, d'orientation, enfin, ou de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la bio ailleurs. Enfin, ça permet juste de connaître, s'informer. C'est déjà la première base, je pense. Et après, ça peut être venir en magasin, rencontrer des producteurs lors des dégustations. Donc, ça peut être juste goûter des produits, mais aussi voilà, un peu essayer de comprendre un peu ce que fait la personne, comment il travaille, etc. Donc ça, nous, maintenant, on a mis en place un programme d'animation qu'on a régulièrement des dégustations en magasin. Et puis, il y a aussi des visites de fermes et des ateliers. Donc, par exemple, en ce moment, il y a des journées autour de la pomme, parce que c'est le moment des cueillettes de pommes. Donc, c'est chez Toinon Verdet qui a repris le verger de son père à Saint-Romain. Et donc, le matin, c'est autour d'une visite, l'explication de comment est-ce qu'elle... Elle s'occupe de ses pommiers, quel type d'arboriculture elle fait. Donc elle, c'est vraiment sans aucun biocide, pesticide ou insecticide bio. Donc c'est vraiment le stade au-dessus de juste le cahier des charges de la bio. C'est vraiment un mode de culture vraiment très, très intéressant qui s'inscrit dans la biodynamie, qui va vraiment plus loin. Donc c'est vraiment intéressant d'aller rencontrer Toinon sur sa ferme pour voir un peu comment elle travaille. Et après, il y a une participation, il y a un repas convivial, donc un repas partagé, et il y a une participation à la cueillette. Et ces moments-là, ils sont vraiment précieux parce qu'ils vous permettent vraiment en fait, d'aller discuter avec les gens qui vous nourrissent, quoi, et c'est essentiel. Donc ça, on commence vraiment à faire un programme plus dense. C'était prévu pour le printemps et puis bon, bah voilà, on a pris 6 mois de retard comme tout le monde pour les mêmes raisons. Et puis c'est pas grave, hein. On a le temps. Et donc voilà, ça c'est certaines visites. Et après, on a commencé à mettre en place d'autres visites où en fait, on va sur plusieurs fermes d'un, entre guillemets, même rayon. C'est-à-dire en mars, avant le confinement, on est allé visiter la ferme des Grangiers à Lucandiwa. Donc... qui nous fournit des génisses et du petit épeautre. Et on y est allé avec Elena du GEC de Mont-Lahu, qui nous fournit également des génisses en complément de la ferme des Grangiers et de l'agneau. Et l'idée, c'est d'aller en fait sur des fermes qui produisent la même chose, d'y aller avec le producteur de l'autre ferme. Et après, on a échangé, on est allé au GEC de Mont-Lahu avec Léna qui
donc
travaille...
c'est l'autre qui fait la visite ?
Non, c'est pas lui qui présente la ferme, mais on y va avec des salariés et des clients et clientes de la Carline, et on y va avec un producteur d'une autre ferme. Et ça, c'est vraiment super chouette, parce que ça permet en fait, de voir déjà les interactions entre producteurs, de voir quels sont leurs soucis, de quoi ils parlent. Souvent, on comprend pas grand-chose, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, d'avoir déjà, nous, salariés, ça nous permet de mieux connaître nos producteurs, de mieux connaître nos clients aussi, et puis voilà... Voilà, c'est un lieu d'interconnaissance et c'est vraiment très important.
Est-ce que tu saurais dire dans quelle mouvance ça s'inscrit, ça ? Est-ce que c'est... On parlait de la traçabilité il n'y a pas très longtemps, les gens voulaient savoir jusqu'au nom de la vache. Ou est-ce qu'il y a une vraie déconnexion, comme on pourrait la caricaturer, entre citadins et ruraux, et les gens qui n'ont jamais vu une vache de leur vie. Enfin, je reste sur la vache encore une fois. Qu'est-ce que vous avez cherché là-dedans ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on aurait besoin de savoir comment se font ces pommes-là ? Pourquoi se reconvaincre ? La biodynamie, c'est mieux que le bio, oui. Les biocides, c'est la même chose que les chimicides, mais il y en a un qui pollue moins. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce que vous voulez permettre, en fait, avec ce genre de...
Bah, c'est sûr qu'il y a une attente de certaines personnes de déjà connaître les producteurs. Juste de connaissances.
Pourquoi ?
Bah, Peut-être pour humaniser. Il y a eu beaucoup trop d'abus, en fait. Je veux dire, nous, en fait, si on veut faire notre métier d'épicier le plus rentable possible, on prend une mercuriale, en fait, on coche les produits, et hop, on est livré deux fois par semaine, et on y passe à tout casser deux heures par semaine en termes de commandes. Et ça, c'est un peu le mode de fonctionnement de quasiment toutes les épiceries ou les grandes surfaces. Ils ont une centrale d'achat, tu coches des croix, et puis voilà, c'est fini. Et puis derrière ça, et bah, t'as des circuits, je dis pas opaques, parce que t'as une traçabilité, mais presque, tu sais pas d'où viennent les choses. Et finalement, tu laisses la place aux mécanismes de marché, d'offres, de demandes, et comme ça, tu as les prix qui s'ajustent comme ça. Et finalement, bah, les grands perdants de ça, c'est les producteurs et puis aussi bah, les clients, parce qu'ils perdent de la visibilité sur leur alimentation. Et du coup, je pense que le mouvement de la bio depuis les années 70, c'est de dire bah, non, en fait, ce système, il nous a peut-être permis d'aller vers une espèce d'abondance de nourriture, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on veut, parce que derrière ça, il y a énormément de dérives, que ce soit au niveau de la santé, au niveau d'abus sur les prix. Et voilà, tout ça, je ne peux pas tout citer, mais il me semble que ça vient d'abus, quoi. Donc là, l'idée, le mouvement, et c'est vraiment à l'œuvre dans le Diwa, on le voit avec la multiplication, l'effervescence de tous les circuits courts, les nouveaux marchés, les paniers, le nouveau magasin de producteurs. C'est vraiment une volonté, en fait, de se rapprocher des producteurs. Et puis, en fait, c'est très, très bien.
C'est plus un besoin, j'allais dire, de la population, là.
C'est un besoin. Et puis, nous, on a vraiment envie de le pousser pour que les gens comprennent qu'en magasin, quand tu as des pommes, c'est pas seulement un produit, c'est aussi le fruit de l'agriculture. Donc, c'est pas seulement un produit que t'achètes et puis tu consommes et puis c'est tout, quoi. Enfin, derrière, il y a tout un processus de production et de respect de la nature. Et je trouve que, voilà, chez les Verdés et puis également chez Yannoulette, qui nous fait aussi des pommes et des poires dans la Drôme, ils ont vraiment, eux, ce souci de remettre la biodiversité dans les terres qu'ils cultivent. Et c'est vraiment très intéressant. Il faut arrêter de prendre le producteur comme, voilà, il nous fait un produit, on consomme et c'est fini. C'est aussi un agent de la biodiversité. C'est un peu un garant de l'environnement.
Puis c'est un an de travail aussi, hein, cette pomme.
Même beaucoup plus qu'un an de travail. Il faut bien s'imaginer que...
Il y a le verger qui a des années, bien sûr.
Mais les pommes, enfin...
Non, mais je veux dire, tous les ans, tu bosses ton verger pour une récolte.
C'est pire que ça, les fruits. Souvent, on trouve que les fruits sont trop chers, mais moi, je trouve qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Parce que, imagine, tu prends une maladie sur ton pêcher ou ton poirier ou ton pommier, en fait, t'en as pour 2, 3, peut-être 4 ans à pas t'en remettre et pas avoir de récolte. Et on se rend pas compte de toutes les conséquences et la vulnérabilité d'un arboriculteur. Donc, c'est sûr que quand t'as un coup de gel ou un coup de grêle, t'es impacté
tout est
par terre, t'as pas de revenus pendant un an. Mais en fait, t'as une maladie, t'as oublié de traiter ce truc-là ou t'as pas vu le truc arriver assez tôt, t'as pas su réagir en 3 jours. En fait, c'est peut-être des années Voilà, un arbre que tu perds. Donc, on se rend vraiment pas compte du travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il faut aller à ces ateliers-là pour voir un peu à quel point, en fait, ta pomme, elle est précieuse. Il n'y a pas que seulement une pomme que tu manges, il y a tout le travail qui est derrière. Et puis aussi comprendre que, voilà, par exemple, les pommes de Toinon, elles peuvent avoir quelques petites aspérités et tout, mais il y a beaucoup de raisons derrière ça, en fait.
Parce que elles ne sont pas rondes et lisses.
Il y en a, tout à fait.
Voilà, oui, bien sûr.
Mais il y en a qui sont peut-être un peu moins rondes, et parce qu'elles ne sont pas traitées. Il faut juste se rappeler qu'une pomme normale, naturelle, c'est ça. Voilà. Donc, nous, on dit, allez, à ces rencontres-là, elles sont importantes. Et puis, on fait un gros focus sur les pommes parce qu'on a une autre journée pommes samedi 19. Mais il y a eu d'autres choses. On a fait une autre journée autour des plantes aromatiques et médicinales. Donc, on est allé visiter Michael de la ferme des Pères Beaux qui nous fait des sirops, des plantes séchées et des déodorants. Et après, on est allé à la ferme Solar qui nous fait toutes les huiles essentielles. Des hydrolats, etc. Et puis c'est aussi intéressant.
Avec une distillerie en plus.
Oui, qui ont une distillerie à la maison et qui ont été aussi fondateurs de la Carline. Donc c'est là aussi, on a appris énormément de choses sur les plantes, les procédés d'extraction, le travail de la terre, enfin tout ça. Donc c'était voilà, souvent on fait des repas partagés au milieu, ça permet d'avoir pas mal d'échanges et c'est vraiment toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière un produit, quoi. De pas seulement l'acheter, de dire ah ben comment il est fait. Et c'est pas pour le comparer avec celui du voisin, c'est juste pour s'instruire. Et je pense que l'instruction, l'information, c'est vraiment la première arme du citoyen, en fait. Voilà.
Donc l'objectif de la Carline, c'est qu'on aille toutes les visiter un jour, là, dans ces 5 prochaines
non,
années.
Non, tu fais à ta mesure, quand tu peux, quand les gosses non, te laissent un peu de répit, quoi. Mais
vous, il faut faire le tour.
L'idée, c'est quand même de se libérer. Maintenant, le magasin, il marche, notre équipe, elle est opérationnelle. Bon, on ne sait jamais, il peut arriver des petites choses, mais on a réussi à faire notre extension et à peu près à aménager le magasin. Donc on a beaucoup plus de temps et d'espace mental libéré. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de remettre le focus sur tous les chargés d'appro là, qui font leurs commandes. Il faut qu'ils aillent visiter tous leurs producteurs et qu'on emmène des fois des clients avec nous. Ouais.
Et j'enfonce un clou exprès.
Vas-y.
Est-ce qu'on pourra aller visiter les ateliers de Jean-Hervé ?
Bah alors là, on pourrait organiser un car, pourquoi
voilà.
Pas. Ouais, ouais. Non, c'est possible, ça peut être des choses comme ça, parce que du coup, nous, on met le focus...
Même ça, quoi, allons-y.
C'est vrai que c'est intéressant.
Ou l'usine
de Selnat ou de Marcal ou des choses comme ça.
Ouais, ou ceux qui font du riz en Italie avec leurs moustaches sur le...
Tout ça, c'est, The Bridge.
Ils font rigoler, eux, ouais. Avec leur paquet.
Bah, moi, j'étais allée visiter notre productrice d'orange en Sicile. Ah. J'avais fait un petit voyage grimpe producteur, et ça, c'était
ouais,
chouette.
Genre.
Ouais.
Je peux aller en Sicile.
Non, mais ça, c'était pour ma pomme,
c'était
quand
professionnel.
Même.
Bien
non,
sûr.
C'était loisir et du coup, c'est vrai, quand tu passes pas loin de producteur, on fait un petit détour, c'est sûr. Mais oui, organiser des voyages un peu plus loin et surtout s'intéresser à la production entre guillemets industrielle bio, c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant, c'est sûr que nous, on a plus envie de mettre le focus sur les producteurs locaux
parce que
c'est ça qui nous fait vivre, en fait. C'est ça qui nous intéresse le plus et qui nous passionne le plus, parce qu'en fait, on les voit qui nous livrent. Mais c'est vrai que tous les...
Et puis, on voit leur impact sur la biodiversité très rapidement.
Voilà. Ouais, et puis on les voit sur le marché, on les croise. Enfin, il y a quand même plus de rapports humains et on a envie d'investir plus dedans. Donc ça, c'est sûr et c'est assumé. Mais après, ça reste quand même que la Carline, il y a plus de 50% des produits qui viennent de grossistes ou pas forcément de grossistes, mais qui viennent un peu de plus gros fournisseurs et qui sont plus loin et plus éloignés. Donc, on prend moins de temps pour aller les voir. Mais ce serait aussi très intéressant d'aller visiter l'usine de pâtes d'Equibio qui vous fait toutes les spaghettis, par exemple, et de savoir comment elles sont faites. Et c'est plus gros, oui. Il y a des machines, oui. Mais c'est intéressant quand même de savoir comment c'est fait, d'où vient le blé et tout. Donc, c'est aussi un travail à faire. Mais en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, tranquille.
Voilà, mais tu as du temps. C'est comme ça que se transforme progressivement ton poste.
Ouais, mon poste. Je suis le couteau suisse. C'est en gros quand il y a un bug au magasin, comme tu vois, genre un confinement, et d'un seul coup, tu as la queue devant la Carline et tu te fais envahir. Et puis, il ne faut pas plus de 15 personnes dans le magasin. Typiquement, on descend au magasin avec Florent, le directeur, et Nina, la comptable. Et puis, on fait comme tout le monde. On fait de la mise en rayon, de la caisse et tout. Donc ça, c'est... Nous, on reste en fait sur des postes qui sont très quand même polyvalents. Et puis, ça rejoint un peu l'esprit des coopératives, des SCOP et des SIC. C'est qu'en fait, si tu veux être légitime dans ce que tu racontes et ce que tu fais, faut quand même avoir les mains dans le cambouis. Hein.
Tout le monde doit être prêt.
Ouais, prêt ou savoir en fait de quoi tu parles sur du travail opérationnel, parce que tu peux pas faire de la coordination ou de la communication, de l'animation ou diriger une équipe ou l'animer si tu sais pas, t'as pas mis tes mains dans le cambouis, quoi. C'est la base.
Et donc du coup, l'inverse fonctionne aussi quand vous êtes à la rue au niveau de la compta, vous faites monter ceux qui sont dans le magasin.
Non, ça c'est interdit. C'est interdit parce que sinon tu mets vraiment le boxon dans la compta. Et là, non, faut quelqu'un de très très rigoureux pour la compta. Si tu veux que les producteurs ils soient payés à J+10 ou à la fin du mois, faut vraiment être très très rigoureux. Ouais. Non, ça, désolé.
Petite blague.
Ouais.
Donc il y a un programme. Il est établi là pour l'année, j'allais dire. Ou vous,
non,
vous avez
non.
Déjà
là...
Comment on sait quelle visite vous proposez?
Comment on
s'y inscrit?
Déjà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter là, qui paraît tous les mois. Et vous désinscrire quand vous voulez. Et là, on tient au courant très régulièrement les gens. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, on a fait appel à... ces visites, elles existent depuis longtemps. C'est surtout cet été, on a vraiment boosté, essayé d'avoir des visites de ferme tous les mois, des dégustations une fois par semaine ou toutes les deux semaines. et des ateliers pratiques plus cuisine plus régulièrement. Donc ça, on a sorti un programme sur de juillet jusqu'à octobre. Donc là, le programme jusqu'à mi-octobre, il est disponible sur le site internet de la Carline, sur la page Facebook et au magasin. Et c'est vrai qu'on a fait appel à un graphiste pour le rendre la chose plus visible, parce que nous, on faisait de la com un peu artisanale et on aime bien, hein, c'est l'esprit familial de la Carline, mais en fait, il n'y a personne qui le voyait.
Ouais.
Donc voilà,
c'est
des
bon,
fois,
ça
faut...
suffit.
Ouais, c'est ça. Des fois, faut... bon, bah, voilà, faut accepter de faire appel à des gens dont c'est le métier, quoi.
Donc il y a une belle affiche qui claque d'ailleurs, qui tourne
en
ce moment.
Ouais. Ouais, on a décidé cette année de lancer une campagne de sociétariat pour inviter les gens à devenir sociétaires de la Carline.
Alors avant, rappelle-nous où vous en êtes aujourd'hui, le statut de la Carline, comment ça fonctionne rapidement. Redis.
Alors la Carline, à la base, c'était une association de consommateurs. Mm-hmm. C'était des gens qui se sont groupés pour acheter des produits bio qu'ils ne trouvaient pas sur le territoire. Et en 2009, ils sont passés en société coopérative d'intérêt collectif. En gros, c'est un peu comme une SCOP. La coopérative appartient à ses salariés, mais aussi à ses consommateurs et aussi à ses producteurs. Donc, pour, tout le monde peut faire ses courses à la Carline. Il n'y a pas besoin d'être sociétaire, pas besoin d'être adhérent. Mais en fait, cette société n'appartient à personne et à tout le monde en même temps, enfin à tous ceux qui sont sociétaires. Donc, pour devenir sociétaire, il faut prendre des parts sociales. Une part sociale, c'est 20 euros. Et cette part sociale, elle te donne le droit de voter en Assemblée Générale, d'être élu au Conseil d'administration et de participer à la stratégie et aux orientations de la coopérative.
On en prend qu'une ou on peut en prendre plein ?
Bah, ça dépend en fait de dans quelle catégorie de membres tu es. Donc quand tu es producteur, il faut prendre 10 parts. Quand tu es consommateur, il faut en prendre 5. Quand tu es salarié, c'est 1% de ton salaire brut, annuel brut, jusqu'à obtenir 50 parts minimum. Après, tu as la catégorie membre de soutien. Donc, pour les organisations du territoire, il me semble que c'est 5 parts. Et après, quand tu es, par exemple, en fait, tu as envie de soutenir la Carline, mais tu n'habites pas sur le territoire, bah, tu prends une part. Voilà.
Les consommateurs qui prendraient des parts, c'est parce qu'ils ont envie d'intégrer un collège.
Oui, ils intègrent le collège.
Donc, et ce n'est pas obligatoire. Donc, comme tu disais, on peut être consommateur sans prendre de part.
Tu peux être consommateur.
Les producteurs, eux, sont obligés de prendre des parts
pour
vendre
chez vous ?
Non, ils
ne sont pas obligés.
Non plus ?
Non plus.
Et les salariés, par contre, vous êtes obligés ?
Alors, un salarié qui est en CDD, il n'est pas obligé. Un salarié qui passe en CDI, il est obligé de faire sa candidature et il est obligé de prendre des parts. Enfin, il n'est pas obligé. Il est obligé de poser sa candidature au CA. Si le CA le refuse, eh ben, il peut rester... en CDI sans être sociétaire, mais la plupart du temps, ouais, c'est faut mettre 1% de ton salaire brut chaque année dans la coopérative. Et puis c'est bien, je suis contente.
Oui. Mais c'était pour être bien sûr de tout.
Voilà.
Donc on peut aussi vendre chez vous sans être.
Ouais, on a une bonne partie des fournisseurs qui sont pas du tout sociétaires de la Carline.
J'imagine que Jean-Hervé il est pas sociétaire.
Non, mais je suis pas sûre qu'on l'accepte comme sociétaire. On les connaît pas très bien encore.
Bon, il va falloir aller visiter alors.
Ouais, il va falloir aller visiter. Mais du coup, non, on n'est pas obligé d'être sociétaire de la Carline ni pour vendre ni pour acheter. Nous, en fait, ce qu'on a envie, c'est d'encourager les gens à devenir sociétaires pour qu'ils s'impliquent plus et qu'ils dépassent en fait juste la relation commerciale. Parce que aujourd'hui, on se rend compte, bon bah, maintenant, vendre et acheter des produits bio et locaux, bah, c'est possible. Par contre, aller sur tout le reste qui est aider la production locale ou s'attaquer aux enjeux qui font qu'on doit aller vers un autre type de société, bah là, c'est autre chose. C'est pas seulement le marché qui va nous aider, quoi. Faut aller plus loin. Donc, du coup, on a envie d'encourager les gens à devenir sociétaires pour participer aux événements, participer
Donc, a priori,
aux âgés.
Plus de consommateurs.
Plus de consommateurs, plus de producteurs aussi.
Mmh. Ouais, parce que plus de salariés, c'est bon, là, vous êtes...
Voilà.
Vous y êtes tous, au moins, ou pas ?
On y est tous, même les CDD ont pris une part en consommateur ou membre de soutien. Ouais.
Donc voilà, l'exemple est montré. Hein ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est sociétaire ?
Bah, quand on est sociétaire, on n'est pas obligé de faire grand-chose. Déjà, on prend des parts. Donc là, on a fait un petit livret du sociétaire qui vous rappelle tous les fonctionnements de la Carline, l'historique, comment ça fonctionne, autant le magasin que la charte d'approvisionnement, que le fonctionnement... coopératif, la gouvernance, l'AG, etc. Donc là, vous avez un petit livret, une petite bible de la Carline qui est disponible sur le site internet ou en papier à la Carline. Et puis après, vous avez juste un bulletin à remplir. Et puis voilà. Puis vous devenez sociétaire. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sociétaire? Le mieux, c'est quand même de venir à l'AG chaque année, de lire le rapport d'activité où on vous explique un peu tout ce qui s'est passé dans l'année, autant dans les activités que dans, je sais pas, le chiffre d'affaires. Enfin, voilà, et en fait, il y a une transparence totale sur les activités de la Carline, parce qu'en fait, finalement, c'est une coopérative du territoire, quoi.
On peut intégrer le collège?
Bah oui, vous êtes obligé d'intégrer un collège. Après, il n'y a pas vraiment de vie de collège en soi. Un collège, c'est pas un organe de vie démocratique. L'organe de vie démocratique, c'est vraiment l'Assemblée Générale et surtout les événements qu'on fait en amont de l'Assemblée Générale. Parce qu'une Assemblée Générale, la plupart du temps, c'est assez réglementaire. Vous avez un rapport d'AG. Vous avez les comptes, des votes, ouais, etc. Ouais. Vous avez peu d'espace finalement pour discuter et participer à l'élaboration de l'orientation de la coopérative, etc. Donc ce temps-là, souvent, on le fait en amont de l'AG et cette année, c'est le 12 septembre, donc c'est ce samedi-là. On fait un café coopératif à Barnave et à partir de tables rondes sur des thèmes qui sont déjà définis. Et on invite les gens à venir participer, tourner d'abord dans un premier temps d'information et un deuxième temps, vous avez une heure et demie pour échanger, débattre. Et ces tables rondes sont animées par des animateurs extérieurs.
Alors, qu'on comprenne, parce qu'on va faire un focus sur ces cafés coopératifs, puisqu'il va y en avoir un certain nombre aussi, a priori. Quel est le process pour qu'une idée parte de là et finisse par être appliquée, proposée par... Est-ce qu'il y a quand même un bureau, il y a un président, il y a quelque chose? Comment ça se passe ça? Pour qu'à la fin, on vous dise, vous, salarié, alors que vous faites quand même partie des collèges, donc vous avez déjà tout suivi, que c'est une des nouvelles orientations de la Carline.
Alors, l'AG, c'est là où, en gros, les orientations sont définies, les orientations de la coopérative sont définies.
Sont votées même, j'allais dire.
Ouais, sont votées. Après, tu as le conseil d'administration où là, il va plus se pencher sur les questions plus d'ordre stratégique et vérifier que la coopérative, elle suit bien les orientations. Tu as une fonction de... On participe, on accompagne le directeur ou le directeur nous accompagne à faire avancer la coopérative, à prendre des décisions dans le bon sens et on vérifie surtout que ça colle bien à ce qui a été décidé en AG, ça correspond bien au statut, etc. Donc un CA, c'est quand même des gens qui sont beaucoup plus impliqués et au courant des affaires courantes. Et après, tu as l'équipe, la direction générale, qui est apte à prendre les décisions stratégiques, à signer les chèques, etc. Tout ça. Et du coup, où est-ce que sont prises les décisions? Surtout en conseil d'administration et dans la direction. Et nous, ce qu'on a envie, c'est que les sociétaires, ils participent plus et ils fassent plus émerger d'idées. Donc, si tu veux, il y a des grandes orientations qui sont décidées, mais après, toutes ces orientations, il faut venir les nourrir. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille pas mal sur accompagner l'amont de l'épicerie, réinvestir, en fait, du capital qui a été créé par l'activité d'épicerie sur l'amont, la production locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Donc là, il y a de l'argent. Et on parlait avec des mots simples. Vous avez de la thune et vous voulez savoir si vous investissez dans la production.
Oui, alors c'est un peu plus complexe que ça, mais surtout comment en fait on aide et on accompagne, et c'est pas seulement aider, c'est comment, on répartit les richesses de l'alimentation, quoi. C'est la distribution, il y a de l'argent.
Est-ce que vous réaugmentez par exemple tous les producteurs ou est-ce que vous installez une nouvelle ferme? Ça pourrait être ça.
Ça peut être les deux et ça peut être aussi d'autres actions. Okay. Donc ces choses-là, c'est vrai que pendant l'année dernière, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on répartit notre résultat. Et on s'est mis d'accord sur une répartition en quatre piliers. Donc, il y a un pilier 50% du résultat à chaque année qui va en réserve pour permettre d'investir dans de nouveaux projets. Donc, à un moment, ça a été l'extension du bâtiment, magasin. Et tout. Et pour la suite, il pourrait y avoir d'autres projets. Il y a 25% qui va sur le pilier lien producteur-consommateur. Il y a 15% qui va dans un fonds d'intervention dans d'autres structures d'ESS. Ça veut dire, par exemple, on a pris des titres participatifs et des parts sociales à Diwat, par exemple, ou à la Ferme des Volonteux, ou à Enercop, ou au Monastère de Sainte-Croix. Donc, c'est un peu des structures d'ESS dans lesquelles on va prendre des parts, en fait. Donc, ça leur sert, ça leur fait... Ça leur
ESS, permet. Économie sociale et solidaire.
Oui, c'est ça. C'est la même famille que la Carline. Et après, on a 10% du résultat qui va... dans les dons, à travers les dons et adhésions aux associations locales ou environnementales. Donc là, ça va être soutenir l'ADR, soutenir Agribiodrome ou soutenir la Parallèle, donc l'association qui accompagne les migrants sur le territoire. Donc il y a différents piliers qui vont axer différentes actions de la Carline. Et par exemple, sur l'axe, comment est-ce qu'on aide à l'amont, en fait, comment on remet de ces résultats sur le côté production locale, il y a différentes questions qui se sont posées. Donc, à la fois, on a mis en place, on va aider en fait des producteurs à investir. Quand au bout d'un moment, tu n'as pas envie d'aller faire un prêt à la banque pour X raisons, c'est peut-être à la Carline en fait, d'investir dans des matériels de conservation. Donc, par exemple, les pommes et les poires des arboriculteurs, cette année, on a investi dans des palox de conservation pour leur permettre en fait, de conserver plus longtemps leurs pommes et leurs poires, d'avoir moins de tension sur « Ah, faut vite que je les commercialise !» parce qu'en fait, dans 2 mois, en chambre froide, elles seront passées et je ne pourrai plus rien en faire. J'aurai perdu 2 tonnes de poires et de pommes. Et nous, ça nous permet d'avoir plus longtemps des poires et des pommes locales parce qu'en fait, à partir du mois de mars, tu n'arrives plus à les conserver en chambre froide. Donc là, tu peux tirer encore 1 ou 2 mois et ça permet aux consommateurs d'avoir des pommes et des poires qui évoluent pas dans le prix, où tu n'as pas une flambée en fin de saison. Voilà. Donc ça, c'est...
Très bon exemple. Voilà.
C'est un bon exemple et ça, c'est... En fait, on aimerait bien, si on crée aussi des espaces, plus d'espaces de discussion avec les producteurs et les consommateurs, c'est pour qu'en fait, cette idée, elle nous est remontée d'un producteur. Et il faut qu'il y ait aussi des gens qui viennent nous voir en disant, j'ai tel problème, est-ce que la Carline, elle pourrait s'investir dessus? Et du coup, après, c'est des discussions en CA avec... avec Florent et avec l'équipe, en disant est-ce que ça peut être le rôle de la Carline de s'investir là-dessus? Et donc après, on peut partir là-dessus, quoi.
On peut délirer.
On peut délirer, on peut pas tout faire.
Voilà,
on n'est pas partout, on n'est pas une équipe de 100 personnes, mais il y a quand même pas mal de portes ouvertes. Et si on crée des cafés coopératifs, c'est pour qu'en fait, la base fasse émerger des idées et voit comment est-ce qu'on peut incarner les axes de la Carline. Et là, en ce moment, on travaille sur 3 axes depuis quelques années. C'est surtout 3 questions. C'est comment la Carline, elle grandit, c'est-à-dire... on grandit plutôt qu'on grossit. Donc nous, on a fait le parti pour la croissance d'accompagner en fait d'autres porteurs de projets.
Il n'y aura pas Carline plein de fois. Il y aura d'autres structures qui vous ressemblent.
Ouais.
Vous pourriez aider à.
Pour l'instant, c'est
à vous ressembler, quoi.
C'est pas mal l'orientation. Nous, on a une accompagnatrice de la coopérative Grapp qui est installée dans nos locaux. Et quand on a quelqu'un qui vient nous voir en disant j'ai envie de monter une épicerie ou j'ai envie de m'installer.
Il y a un projet
comme
à Luc,
traiteur,
d'ailleurs, non, c'est ça.
Ouais, on est en
vous
contact.
Suivez
ouais, on suit.
Okay.
Ouais. Donc,
un petit scoop au passage.
Donc voilà, c'est plutôt, on aide les gens, on les accompagne. C'est surtout Marie de Grapp qui fait ça. Après, c'est sûr qu'à un moment, il faudra quand même se poser la question parce que le contexte, c'est que la croissance, elle grandit, que nous, nos réserves, elles sont déjà à pleine capacité alors qu'on a fini les travaux l'année dernière. Donc à un moment, il faudra quand même se reposer la question si les salariés n'ont pas envie de resubir la croissance d'activité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit ouvrir un autre magasin? Est-ce qu'on doit pousser fortement à l'ouverture d'un autre magasin sur Die, à Châtillon ou je ne sais pas où? Donc ça, c'est des questions qu'on a toujours et qu'on est obligé de se poser. Donc c'est un axe de réflexion qui sera le sujet d'une table ronde samedi au Café Coopératif.
Ouais.
Après, tu as l'autre sujet, c'est comment la Carline participe à la production locale. Donc il y a la question en effet de est-ce que la Carline peut investir sur certaines choses pour aider ses producteurs ou c'est aussi à eux de faire remonter leurs besoins. Et puis, il y a la question, est-ce que la Carline, elle se penche sur accompagner la transmission de fermes locales? Donc ça, c'est un projet en ce moment où on suit une transmission de fermes sur Die. Et c'est est-ce que la Carline participe c'est sûr que déjà, on a déjà mis des heures à accompagner ce projet. Et la question, c'est est-ce que la Carline met des sous, à quelle hauteur, etc.
Oui, parce qu'on imagine que si une ferme s'arrête et qu'elle n'est pas transmise, ça vous,
soit ça
vous
va
tire
agrandir...
un fil.
Soit ça va agrandir la ferme d'à côté, soit ça va agrandir la ZAC. Donc, bon.
Mais, et vous faire perdre une entrée, quoi, aussi.
Là, c'est quand même l'occasion de travailler sur la relocalisation de l'alimentation, de pouvoir installer des personnes pour produire plus de produits locaux. Donc ça fait plus de produits locaux à la Carline. Après, il y a beaucoup de travail à faire dessus pour coordonner des fermes sur les différents approvisionnements de la Carline. Mais oui, c'est quand même un sujet extrêmement intéressant.
Bon, bah, c'est un sacré poids politique en perspective aussi, parce que je veux dire, vous avez le lobbying potentiel pour empêcher l'agrandissement de la ZAC, par exemple.
Enfin, moi, j'ai quitté direct, mais... Je ne sais pas si on peut parler de lobbying, mais ça peut être un projet concret, oui, de permettre de réinstaller des agriculteurs. Donc après, l'idée, ça va plus loin que juste... permettre l'installation de fermiers, c'est aussi de dire bah tiens, il y a quand même un modèle agricole qui est un peu en panne, où les transmissions, elles sont compliquées. Et là, vous avez une ferme de plusieurs hectares où il y avait surtout une personne qui travaillait dessus. Et l'idée, c'est de créer une ferme plutôt collective avec plusieurs ateliers différents qui puissent aussi travailler entre eux avec une ferme on appelle ça polyculture élevage, où tu as à la fois des ateliers d'élevage, à la fois des ateliers de maraîchage, de céréales et potentiellement de transformation. En fait, c'est les anciens modèles de ferme qu'on remet à la mode. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un peu sur le modèle de ferme type les Volonteux à Beaumont-les-Valence, qui eux sont en scope CAE, où il y a plusieurs pôles d'activité, où ils sont eux-mêmes leur, on va dire, ils sont entrepreneurs, salariés et chefs d'exploitation. Donc ça change en fait des modèles traditionnels où tu t'installes en GAEC ou en ERL, ou etc. Là, tu es en coopérative et tu as un statut de salarié qui te permet en fait, quand tu finis ton activité, que tu as envie de faire autre chose, de partir, déjà d'avoir entre guillemets une séparation moins compliquée. Et les outils restent en fait sur la ferme.
Ça et une reprise beaucoup plus facile.
Et une reprise plus facile. Et puis toi, tu as une continuité de tes droits sociaux. Donc c'est quand même, c'est des choses qu'on explore en fait avec la coopérative GRAP, sur un projet qui s'appelle COP Agri, et où il y aurait plusieurs sites pilotes dans la région. Et donc, voilà, la Carline, elle se penche dessus pour dire, pour justement se questionner sur comment est-ce qu'on peut aller au-delà que juste offrir des débouchés aux producteurs locaux et acheter à bon prix leurs produits. L'idée, c'est d'aller plus loin et de dire, bah, en fait, il y a besoin d'aide sur l'accès au foncier, sur aider à créer un nouveau modèle agricole, voilà. Et j'oubliais, il y a quand même une troisième table ronde qui est quand même très intéressante. C'est justement participer aux discussions sur la répartition des richesses. Et donc là, c'est de refaire un peu le point sur qu'est-ce qu'on a mis en place, sur justement quels dons on a fait avec les résultats de la Carline, où est-ce qu'on a investi, quelle baisse de marge on a fait, pourquoi on les a faites, et de justement se réapproprier un peu cette question. C'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Vous n'avez quand même pas beaucoup d'épiceries qui ont ce questionnement, donc justement, on a voulu l'ouvrir avec une table ronde. Donc voilà, ces tables rondes, elles doivent servir aux gens à se réapproprier un peu ces sujets, parce qu'ils sont quand même complexes et pas évident d'arriver de tout maîtriser. Donc il y a un premier temps d'information où chacun tourne sur les tables rondes, donc pour vous permettre d'avoir un peu les éléments de contexte. Et après, il y a une heure et demie de
réflexion. Choisir sa table.
Vous choisissez votre table et il y a une animation extérieure et après, il y a une restitution collective. Et donc là, ce n'est pas des choses qui vont vous permettre de voter à l'AG, hein. Je veux dire, c'est surtout un temps de vraiment de concertation.
Pour nourrir l'AG.
Voilà, c'est surtout pour nourrir la réflexion, aider les administrateurs à orienter, enfin voilà, à prendre des décisions pour la Carline. Donc c'est vraiment un temps de rencontre et de travail collectif, d'émergence, on va dire.
Café coopératif, donc c'est le 12 là à Barnave. Il faut être déjà sociétaire là du coup pour y participer,
oui.
Ou on devient sociétaire jour même si on veut?
Tu peux, c'est mieux quand même d'être sociétaire. Après, si t'es pas sociétaire et que c'est des choses que t'as envie de participer aux tables rondes et voir de quoi on parle, c'est possible. Il faut nous faire un petit mail ou nous appeler au magasin et puis on voit en fonction de la jauge. Parce qu'il y a quand même des normes Covid à faire respecter, donc on a quand même une jauge.
Comment on fait si on a des enfants?
Ah, bah pour une fois, on a pensé à vous.
Ah.
On a demandé à la COPER de nous prêter des jeux et on fait venir Julien Lous, qui est éducateur Montessori, qui sera là de 14h à 18h pour s'occuper des enfants. Et on organisera sur place une garde avec des parents en fonction du nombre d'enfants, un espèce de tour de garde, ce qui permettra aux parents de participer aux tables rondes et aux enfants de s'amuser. Voilà.
Et donc j'imagine que c'est pas dans la salle des fêtes?
Non, c'est en extérieur, sous la halle de Barnave. Donc on a pensé au Covid et on s'est dit que c'était bien quand même d'être en extérieur pour éviter les aérosols. Donc on aura des tables rondes avec des chaises vraiment espacées pour éviter d'être trop proches. Le port du masque n'est pas obligatoire à l'extérieur. Il sera conseillé pour les personnes vulnérables. Après, voilà, on va demander à tout le monde de bien respecter les distances de pas de sécurité, mais
de distanciation, comme
voilà,
on dit.
Voilà, la distanciation physique. Il y aura du gel hydroalcoolique et puis des masques en rab pour ceux qui veulent en porter.
Et voilà. Plein de jeux, alors.
Et plein de jeux pour les enfants. Et les parents aussi, ils s'ennuient.
Donc, deux rendez-vous assez immédiatement. Ce 12 septembre pour ce café coopératif. Le 26...
Pour l'AG.
À
Romeillé, qui sera suivi du spectacle Si la Carline m'était comptée.
À Romeillé, donc c'est des salles polyvalentes en fait hein, que vous.
Non, Romeillé, ce sera le gîte La Bastide des
Autres. À La Bastide.
Donc,
ouais,
voilà,
okay.
C'est ça. Et ça aura lieu en fait en même temps que le séminaire et l'AG de Grappe, donc avec qui on travaille. Donc ce sera l'occasion en fait de rencontrer des gens de Grappe, autant l'équipe interne que d'autres projets d'épicerie de la Drôme ou d'artisanat, les fournils, les brasseurs, etc.
Et puis donc ces visites à la ferme. Alors tout ça. Sur des programmes, différents flyers disponibles à la Carline, sur le site internet, bien
ouais,
sûr.
Et sur la page Facebook.
Sur la page Facebook.
Qui n'est pas trop mis à jour, mais on essaye.
On a tout dit, Caroline ?
Je crois, ouais. Merci.
Eh ben, merci à toi.
À bientôt.
On se retrouve, bientôt.
Samedi, à Barnave.
Samedi, à Barnave.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.